Et les matins se poursuivent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La crise sanitaire du Covid-19 a-t-elle été avant tout causée par l'homme qui dégrade son environnement? C'est l'une des questions centrales du sommet pour la planète organisé par Paris aujourd'hui. La France et l'Allemagne promettent à cette occasion 350 millions d'euros pour mieux surveiller ces phénomènes.
Et puis à l'hôpital, ce sont les chiffres du Covid-19 que l'on surveille, notamment à Marseille où un foyer épidémique de nouveaux variants britanniques a été détecté ce week-end.
Au Japon aussi, une variante du virus circule. Nous irons d'ailleurs à Tokyo. Dans cette édition encore, la vaccination en question, alors que le vaccin Moderna arrive en France aujourd'hui. Des réunions à Matignon et à l'Élysée vont s'enchaîner.
Et puis dans un quart d'heure, Frédéric Saïd se demandera d'ailleurs si les ministres doivent se faire vacciner devant les caméras. Son billet politique, ça sera à 8h16.
Avant cela, Guillaume, notez que nous irons à Washington, où la représentante des démocrates au Congrès confirme son intention de lancer une procédure de destitution contre Donald Trump. Ce sera la deuxième en moins de 2 ans aux États-Unis. La biodiversité comme terrain de réflexion pour préserver à la fois les espèces et la santé humaine. Voici l'un des thèmes centraux du sommet organisé par la France aujourd'hui, le One Planet Summit, 4e édition, en concertation avec les États-Unis et la Banque mondiale. Par visioconférence, il y aura donc ce lundi une trentaine de chefs d'État et de gouvernement, des responsables d'organisations internationales, d'entreprises et des représentants de la société civile. Devant tout ce monde, la France et l'Allemagne vont lancer aujourd'hui une alliance inédite. Elle s'appelle Prézod. Il s'agit, et c'est plus que jamais d'actualité, de prévenir les futures pandémies en lien avec le monde animal, Véronique Roberotte.
La perte de la biodiversité crée l'émergence de zoonoses, ces maladies ou infections qui se transmettent des animaux à l'homme et vice-versa. D'où le concept « une seule santé », ou quand la protection de la santé humaine passe par la santé de l'animal et celle de l'ensemble des écosystèmes. Benjamin Roche, de l'Institut de recherche pour le développement, travaille sur le programme Prézod.
Il y a un gros enjeu aujourd'hui autour de ce concept d'une seule santé, parce qu'on se rend compte, avant le XXe siècle, on avait à peu près une pandémie tous les siècles. Depuis le début du XXe siècle, on en a déjà eu 6, et à chaque fois, ce sont des zoonoses, donc ces maladies infectieuses qui émergent de la faune sauvage. Ce lien entre perte de biodiversité et émergence de zoonoses, c'est ce qui va créer l'étincelle pour une pandémie. Donc ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est d'essayer de prévenir ces émergences de zoonoses, d'éviter que ça émerge, que ça commence à toucher les populations humaines.
La déforestation, l'urbanisation et l'agriculture sont les activités humaines qui entraînent une perte de biodiversité. Aussi, la protection de certaines zones doit se faire en lien avec la population. Benjamin Roche.
Moi, par exemple, je travaille au Mexique, dans la péninsule du Yucatan. C'est une région qui est extrêmement déforestée. Et ce qu'on essaye de voir, c'est justement d'introduire des activités agricoles plus durables, sylvopastorales. Comment on peut ne pas complètement laisser tomber, bien sûr, certaines activités économiques qui sont essentielles pour les populations locales, mais d'arriver à les transformer en activités plus raisonnées pour qu'elles puissent continuer à être économiquement intéressantes pour les populations locales, tout en étant efficace pour diminuer le risque d'épidémie.
Le programme franco-allemand Prézod, lancé aujourd'hui, devrait être à terme doté de 350 millions d'euros.
Véronique Roberotte pour France Culture. Voilà qui nous amène donc vers le Covid-19, pandémie d'origine animale qui bouscule, qui paralyse une grande partie de la planète depuis un an. Ce matin en France, le Premier ministre Jean Castex doit réunir les groupes parlementaires par visioconférence. Ce sera à partir de 9h tout à l'heure. Il se rendra ensuite dans l'après-midi à l'Élysée auprès d'Emmanuel Macron et des principaux ministres concernés. L'exécutif doit faire un point sur la stratégie de vaccination dans le pays et sur la propagation du variant du Covid-19. Variant qui vient de Grande-Bretagne et qui est présent localement déjà en France. Samedi, un foyer épidémique d'au moins 8 personnes a été détecté à Marseille, cluster familial. Le maire de la ville, Benoît Payan, ne cache pas son inquiétude. Situation même dramatique pour son adjointe, Samien Galli. Ce matin, Agathe Mahuet a pu joindre le professeur Dominique Rossi, président de la commission médicale d'établissement de l'APHM, les hôpitaux publics marseillais. Si pour le moment, dit-il, ces équipes tiennent, il ne faut pas aggraver la situation. Il s'explique, chiffres à l'appui.
Au mois de juillet, il restait de la première vague 2 malades en réanimation. Mmh. Aujourd'hui, de la deuxième vague, il reste 33 malades. Donc on repart pas à zéro, on repart pas au plancher. Ce qui veut dire que si les choses augmentent, ben on va partir encore avec un certain nombre de difficultés. Et franchement, le personnel, et comme le reste de la population, ils en ont marre de ce virus, ils sont fatigués, ils n'ont pas récupéré. Donc il faut tout faire effectivement pour ne pas repartir dans une spirale difficile. Mais je crois qu'il faut pas affoler la population. Je veux dire, bon, on tiendra, mais il faut vraiment, vraiment que cela s'arrête, quoi.
C'était le professeur Rossi à Marseille. Sachez d'ailleurs qu'il y a un couvre-feu avancé dans les Bouches-du-Rhône depuis hier soir, 18h au lieu de 20h. C'est le cas dans 23 départements du sud-est et de l'est de la France. Dans ces départements d'ailleurs, les plus touchés par le Covid-19, le vaccin Moderna doit arriver aujourd'hui. 50 000 doses, souligne le ministre de la Santé, 3 jours après l'autorisation du sérum par l'Union européenne. Ces doses iront donc en priorité dans le Grand Est, en Bourgogne-Franche-Comté, en Auvergne-Rhône-Alpes ou en PACA. Encore faudra-t-il utiliser ensuite ces doses. Le gouvernement avait promis que 300 centres de vaccination seraient opérationnels ce lundi en Hexagone. Les élus locaux avaient été très demandeurs, force de proposition, mais visiblement ce n'est pas simple et peu encadré, Rosalie Lafarge.
Ici, un maire propose une salle des fêtes, là un autre met à disposition un gymnase. Ailleurs, dans le Var, un espace de 800 mètres carrés, déjà devenu centre de dépistage, peut devenir centre de vaccination, assure le premier élu de la ville. Mais les prises de décision traînent, regrette Jean-Pierre Girand. Et pour le maire, les Républicains de hier, la raison est évidente.
Je pense qu'il y a un manque de doses et que sous l'alibi du sérieux de l'opération, on ne transfère pas aux élus locaux. Mais s'il y avait les doses, ils transféreraient, j'en suis sûr.
Problème d'approvisionnement peut-être, problème d'administration sur Sûrement, insiste le maire LR de Saint-Pourçain-sur-Sioule dans l'Allier, Emmanuel Ferrand, prêt lui aussi à mettre une salle à disposition pour vacciner sa population.
J'ai l'impression que si on avait donné ça à Amazon, ça serait déjà tout fait, et parce que c'est notre administration qui le fait, ça prend un peu plus de temps. Voilà, on est dans un monde où il y a plein d'échelons administratifs, il faut que chaque échelon donne son accord, et quand il y en a un qui ne le donne pas, et ben ça bloque toute la chaîne.
Et c'est bien la lourdeur du processus de décision le cœur du problème pour André Robert, le délégué général de l'association des petites villes de France.
C'est le système dans son ensemble qui bloque, la façon dont est conçu le système de santé dans ce pays, hyper centralisé, hyper bureaucratique, avec des agences régionales de santé qui n'associent pas suffisamment les collectivités territoriales et qui évidemment ne leur fait pas confiance pour déployer des stratégies au plus près des besoins des territoires.
L'association des petites villes de France appelle à associer beaucoup plus fortement les élus locaux à la gouvernance des ARS et plus largement à repenser notre système de santé à partir des territoires.
Et notons qu'en ce début de semaine, environ 50 000 personnes ont été vaccinées en France. De l'autre côté de la Manche, c'est bien plus, 2 millions de vaccinés déjà, et l'espoir de l'ensemble, que l'ensemble de la population le soit à l'automne. Au Royaume-Uni, une personne sur 50 est porteuse du Covid-19, proportion qui a évidemment bondi depuis l'apparition d'un variant du virus. Et après le Royaume-Uni, après l'Afrique du Sud, c'est désormais le Japon qui annonce avoir découvert un nouveau variant. Il a été identifié sur des patients de retour du Brésil, Karine Nishimura.
Ce nouveau variant a été détecté sur 4 personnes, dont 2 enfants, dont la nationalité n'est pas mentionnée, de retour le 2 janvier d'un séjour au Brésil. L'analyse a montré des mutations en partie similaires à celles des variants de grande contagiosité apparus en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud. 3 des 4 personnes infectées présentaient des symptômes divers quand elles ont été contrôlées positives à leur arrivée à l'aéroport Haneda de Tokyo. L'Institut japonais de recherche sur les maladies infectieuses indique disposer d'un nombre limité de données sur ce nouveau variant et ne pouvoir rien affirmer quant à son pouvoir de contagion, la gravité des symptômes dont il serait responsable, sa réponse face aux différents types de tests et aux vaccins. L'Organisation mondiale de la santé a été alertée de l'existence de ce nouveau variant. Compte tenu de la flambée récente de la Covid-19 au Japon, en partie replacée sous état d'urgence mais sans confinement, l'importation de nouvelles souches accroît la demande de restrictions plus ferme aux frontières. L'entrée des étrangers est déjà en très grande partie interdite, mais les Japonais de retour d'un pays tiers devraient être soumis à une quarantaine plus strictes, estiment de nombreux médecins.
Karine Nishimura depuis Tokyo. L'équipe de l'Organisation mondiale de la santé va finalement pouvoir se rendre en Chine pour enquêter à propos du Covid-19, visite qui pourra débuter jeudi. Alors que l'on se souvient aujourd'hui du premier mort à Wuhan, c'était il y a un an tout juste. Premier décès officiel d'un homme qui faisait ses courses sur un marché de Wuhan.
8h10 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Aux États-Unis, les démocrates semblent prêts à déclencher une nouvelle procédure d'impeachment à l'encontre de Donald Trump.
Oui, procédure de destitution confirmée hier soir par la speaker de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. 5 jours après l'assaut lancé par des manifestants pro-Trump à Washington contre le Capitole, Nancy Pelosi tient Donald Trump pour responsable et elle s'adresse au vice-président Gregory Phillips.
Nancy Pelosi donne 24 heures à Mike Pence pour qu'il déclenche le 25e amendement de la Constitution, section 4, qui prévoit que le vice-président et les ministres du cabinet déclarent l'inaptitude du président à exercer ses fonctions. Si Pence ne le fait pas, alors la speaker démocrate de la Chambre des représentants lancera une procédure d'impeachment, comme il y a un an. Elle était hier soir sur CBS.
This president is guilty.
Ce président est coupable d'avoir incité à l'insurrection. Il doit payer pour cela. On ne laissera pas passer une tentative de coup d'État lancée afin de ne pas valider les résultats de la présidentielle. Il faut que la justice passe.
Les démocrates vont tenter de faire voter l'impeachment de Trump à la Chambre avant la fin de cette semaine. Ce serait pour eux, comme le dit Pelosi, une manière de ne pas laisser passer, de faire aussi de Donald Trump le seul président américain à avoir été impeached, empêché à 2 reprises. Si d'aventure enfin le Sénat devait voter la destitution de Trump, même après le 20 janvier, alors cela lui interdirait de prétendre à toute fonction officielle et donc l'empêcherait de se représenter en 2024.
Et tant qu'il est encore à la Maison-Blanche en ce moment, Donald Trump a toujours le pouvoir. Il a ainsi décidé d'inscrire les rebelles houthis du Yémen sur la liste noire des groupes terroristes. Cela risque, selon les organisations internationales, d'aggraver la crise humanitaire au Yémen. À l'aube du grand salon de l'électronique organisé par Las Vegas et qui est en ligne cette année, nous avons choisi sur France Culture de nous pencher aujourd'hui sur une entreprise numérique innovante et française. Une banque digitale verte et responsable à laquelle s'est intéressée Annabelle Grelier pour notre nouveau rendez-vous du lundi, Demain l'écho. Annabelle a donc rencontré la co-directrice de cette banque, Helios. Julia Maneyas promet à ses nouveaux clients que leurs euros n'iront pas financer d'industries polluantes. Écoutez.
La vraie innovation chez Helios, c'est la transparence, c'est-à-dire pouvoir vérifier en tant que client bancaire comment sont utilisés ses dépôts, c'est-à-dire où est-ce que va son argent finalement et ce qu'il finance. Donc on peut suivre dans l'application les projets qui sont financés, les secteurs qui sont soutenus et par ailleurs, donc c'est l'engagement écologique, l'innovation, c'est-à-dire avoir l'assurance que pas un euro ne va financer les secteurs qui sont liés au réchauffement climatique, le pétrole, le gaz, le charbon, mais aussi qui nuisent à la biodiversité ou aux hommes, que ce soit l'élevage intensif, les pesticides chimiques, également les armements, évidemment. Et à l'inverse, dès le premier euro, avoir l'assurance que les financements qui seront alloués grâce à nos dépôts iront soutenir les secteurs moteurs de la transition écologique. La rénovation thermique des bâtiments publics, privés, les réseaux de transport public, également les énergies renouvelables dans les pays en Europe qui sont particulièrement carbonés. Donc c'est une banque active, en tout cas qui rend active ses dépôts pour financer notre futur à tous finalement.
Demain, l'écho, le reportage d'Annabelle Grelier est à retrouver en longueur ce soir dans le journal de 18h de France Culture. Financer les bons gestes pour l'écologie et pour la planète, c'est aussi le rôle que s'est fixé le gouvernement. À partir d'aujourd'hui, le dispositif MaPrimeRénov' est élargi à tous. Un dispositif qui sert à subventionner des travaux d'économie d'énergie, mais qui peine à convaincre, Adrien Taufollet.
Il y a eu un retard à l'allumage, reconnaît bien volontiers Emmanuel Wargon, la ministre déléguée au logement. La crise du Covid a ralenti le traitement des demandes et surtout le paiement des primes. Seules 40 000 demandes ont abouti à ce jour. Le gouvernement promet de mettre les bouchées doubles, car impossible d'inciter les propriétaires à faire changer leurs fenêtres ou abandonner leurs chaudières au fioul si l'argent pour payer les factures tarde à arriver. D'autant que MaPrimeRénov' souffre encore, comme tous les dispositifs d'aide, d'une méconnaissance de la part des Français. Tout a pourtant été fait pour faciliter les choses, affirme Olivier Salleron, le président de la Fédération française du bâtiment.
Moi, je suis plombier chauffagiste, donc je peux vous dire que j'ai fait des devis, et quand il fallait expliquer aux clients, c'était un petit peu difficile pour cumuler toutes les aides, tous les avantages, etc. Aujourd'hui, oui, on a MaPrimeRénov', il y a un site unique, il y a un site aussi sur lequel on peut simuler les aides auxquelles on a droit. Et donc, franchement, sur le côté simplification, on s'est amélioré.
Sauf qu'un certain nombre de travaux de rénovation ne sont pas finançables par MaPrimeRénov', mais par des certificats d'économie d'énergie donnés par les producteurs, comme EDF.
Or, les certificats d'économie d'énergie, personne n'y comprend rien.
Elisabeth Chenet de l'UFC, que choisir?
Les professionnels sont censés vous en parler, vous en faire bénéficier, mais c'est pas toujours le cas, et puis vous n'y touchez pas toujours en totalité. Et puis, vous avez aussi un mix quand vous faites des travaux assez importants entre MaPrimeRénov', entre Action Logement, entre les aides nationales, les aides locales, voilà, tout ça doit s'organiser. C'est un vrai casse-tête.
Difficile donc de convaincre les victimes de phobie administrative, qui sont nombreux quand il s'agit de devoir monter un dossier à suivre pendant plusieurs mois, pour parfois n'obtenir qu'une aide d'une centaine d'euros sur une facture à 3 ou 4 zéros.
C'était Adrien Taufollet. La mort de Georges Pernoud, sa famille l'indique ce matin. Il avait créé, Georges Pernoud, en 1975, l'émission Thalassa, l'avait présenté pendant près de 40 ans. Georges Pernoud avait 73 ans. La météo, Guillaume, rapidement, le soleil est de retour ce lundi près de la Méditerranée et en montagne, mais le temps restera gris sur le quart nord-ouest. Ce matin, il fait moins 8 degrés à Clermont-Ferrand, moins 5 à Besançon, 2 degrés à Paris et 5 à Nice.
Merci beaucoup, Clara Lecoq-Ré. À 8h15 sur France Culture, dans quelques instants, on va évoquer la manière dont la démocratie est chahutée au Capitole à Washington. Comme ailleurs, nous serons en compagnie de Marie-Cécile Nave, elle est politiste, directrice de recherche à l'IRIS. Elle a publié notamment Trump, la revanche de l'homme blanc aux éditions textuelles. Et Marc Lazare, il est professeur des universités en histoire et sociologie politique à Sciences Po. Il a publié Peuplecratie aux éditions Gallimard. Dans 30 minutes, vous retrouverez mes camarades Hervé Gardet, Géraldine Mosna-Savoie et Arnaud Laporte. Et puis dans quelques instants, un billet politique avec vous, Frédéric Saïd. Bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Et ce matin, un dilemme pour les responsables politiques.
Oui, faut-il montrer l'exemple et se faire vacciner devant les caméras ?